Je me présente, hein, c'est éventuellement, donc Nicolas Cadenne, ça a été dit. Je suis juriste de formation. J'ai dirigé effectivement l'Observatoire de la laïcité auprès du gouvernement entre 2013 et 2021, c'est-à-dire tout le temps de son existence. L'Observatoire était une instance créée par décret par Dominique de Villepin et Jacques Chirac, mais installée qu'en 2013, puisque entre 2007 et 2013, Nicolas Sarkozy ne l'avait pas installée. Installée en 2013, c'est une instance pluraliste composée. C'était une instance pluraliste composée autant de parlementaires de l'opposition que de la majorité, mais également de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire tous les directeurs généraux ou secrétaires généraux de tous les ministères concernés, les 8 ministères, grands ministères concernés, donc toutes les administrations centrales siégées dans cette instance, et également y siéger ce qu'on appelait les personnalités qualifiées, c'est-à-dire des personnes reconnues pour leurs travaux sur la laïcité, qu'ils soient juristes, sociologues, philosophes, anthropologues ou acteurs de terrain, élus locaux. Vous aviez des membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, des élus de petites villes, des responsables associatifs ou donc des sociologues, anthropologues, philosophes. Cette instance, elle était là pour piloter les politiques publiques sur la laïcité, conseiller les gouvernements successifs sur ces politiques publiques, mettre en œuvre un certain nombre d'actions en la matière. Elle a été à l'origine de pas mal de modifications d'ordre réglementaire, parfois législatives. Elle a aussi été à l'origine de plans nationaux de formation que j'ai initiés et co-conçus, co-rédigés, qui se déploient encore aujourd'hui un peu partout en France. Elle a aussi été à l'origine d'ailleurs de la démultiplication des diplômes universitaires sur la laïcité qui existe un peu partout en France. Il y en a à Nîmes d'ailleurs, un diplôme sur 120 et 180 heures avec du droit de la laïcité, de l'histoire du droit de la laïcité, de la sociologie, de la médiation à Nîmes, etc. Nous étions aussi là pour prévenir les contentieux, pour rappeler le droit aux acteurs de terrain, aux administrations concernées, aux particuliers, etc. Donc une action importante qui était aussi une action de terrain. Moi, j'étais 2 à 3 jours par semaine un peu partout en France. On a été dans tous les départements, y compris en Outre-mer. Une action donc qui s'est étendue sur 8 années. Depuis la fin de cette instance en 2021, j'ai été haut fonctionnaire, j'ai dirigé une administration, pas loin d'ici, une administration d'État dans l'Hérault. Et puis désormais, j'ai ma propre structure de conseil, de formation aussi, notamment, mais pas que, mais notamment sur les questions de laïcité et de faits religieux en général. Et j'ai écrit effectivement quelques ouvrages sur la question. Dernièrement, une 4e réédition largement augmentée est sortie de mon ouvrage qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur la laïcité » aux éditions de l'Atelier, à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905. Parce qu'effectivement, j'ai pu constater dans mes responsabilités combien, mais il n'est pas utile d'être dans des responsabilités pour le constater, combien il y a beaucoup de bêtises qui sont énoncées sur la laïcité dans le débat public, malheureusement. Voilà, et puis j'ai cofondé avec un certain nombre d'acteurs de terrain et d'universitaires un organisme citoyen qui s'appelle la Vigie de la laïcité, qui essaye de traiter de cette question en se fondant sur la raison plus que sur la passion, comme c'est trop souvent le cas, je pense, dans le débat public. Alors, on va commencer par le commencement. On pourrait parler, par exemple, dès le 5e siècle, du pape Gélas Ier. Vous voyez peut-être qui c'est. Non, non. C'est le premier pape qui est d'origine africaine, maghrébine en réalité. C'était donc les terres africaines romaines, donc vous voyez, hein, ce qui est à peu près le Maghreb actuel. On ne sait pas s'il est né à Rome ou né a priori en Tunisie actuelle. En tout cas, ses parents étaient nés en Tunisie actuelle. Donc bon, lui, il venait de là. Il est devenu pape. Et c'est le premier à, sans séparer les pouvoirs, à les avoir distingués. Donc ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va affirmer l'autonomie de l'Église vis-à-vis du pouvoir politique, tout en posant, bien sûr, quoi ?
La suprématie.
Exactement, la supériorité du spirituel. Et donc ça préfigure, alors qu'on est au 5e siècle, ça préfigure quoi ? La doctrine médiévale des De Glaives. On est très en avance. Donc ça, c'est une doctrine qui se développe au 12e siècle, donc 7 siècles plus tard, et qui affirme l'autorité religieuse sur le pouvoir séculier. Et c'est une théorie, une doctrine, pardon, qui s'inscrit dans le contexte de la querelle des investitures. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est un conflit absolument majeur entre la papauté et à l'époque les empereurs germaniques. Donc c'est pas directement la France, mais ça a un impact direct sur toute la chrétienté, pour donc déterminer qui, du pape ou du souverain, doit nommer les évêques. Puisque jusqu'alors, bien sûr, c'est le pape qui nomme les évêques sans aucune contestation. Donc on distingue là l'investiture spirituelle et l'investiture temporelle. Au Moyen Âge, les rois de France, vous le savez, ils tirent leur légitimité de quoi? Du droit divin. Et du sacre, donc. Et c'est l'Église catholique qui est la seule détentrice de cette capacité, de ce pouvoir spirituel, et donc de la capacité, finalement, de légitimer le roi. Le roi a tout un intérêt à être reconnu droit divin, puisque finalement, en gros, il dit, non, non, mais tout ce que je veux, c'est le Dieu qui dit, c'est Dieu qui décide, donc vous n'avez rien à dire. C'est formidable. C'est une légitimité absolue, quoi, de dire, de toute façon, moi, je relève de Dieu, donc vous n'avez absolument rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas totalement autonome. Il doit passer par l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qui le sacre. Donc ça l'enquiquine, le roi. Parce que le roi, il aime bien avoir tous les pouvoirs. Là, il est quand même obligé de se plier, évidemment, à l'Église catholique. Il y a une dépendance qui renforce évidemment l'influence du pape sur le pouvoir royal. Et évidemment, les souverains français vont chercher progressivement à limiter cette autorité pontificale. Ça s'est fait très tôt, avant même que les rois de France y parviennent. Par qui? Qui sait, est-ce que vous avez un exemple de roi qui ont su s'autonomiser du pape? Eh bien, ce sont les rois de Sicile. C'était des comtes normands, donc la Normandie à l'époque n'était pas française, les comtes normands de Hauteville ont conquis la Sicile qui était musulmane, qui était arabo-musulmane au XIe siècle. C'était une île arabo-musulmane, mais très plurielle. C'est-à-dire que le pouvoir musulman acceptait une grande diversité de croyances. Il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans. Les comtes normands conquièrent l'île. Ils deviennent rois. Ils imposent un royaume qui va jusqu'au sud de l'Italie, le royaume de Sicile. Et finalement, là... Ah, transition énergétique.
C'est là-bas.
Ils vont maintenir cette pluralité sur l'île, musulmans, chrétiens, grecs aussi, avec teinté encore de paganisme, lombards et tout, siciliens, et ils vont investir eux-mêmes les sièges ecclésiastiques sur l'île. Donc, ils vont pas laisser le choix, ils vont pas demander au pape son avis. Et donc, ils vont quelque part créer une première. Pas séparation, mais enfin plus loin quand même que la distinction. Ils prennent autorité sur l'autorité spirituelle. Et pourquoi ça a pu se faire? Ben, tout simplement, c'est très politique, comme vous vous en doutez. C'est parce que l'Église, à ce moment-là, le pape, eh bien, avait absolument besoin des soldats et des chevaliers du royaume de Sicile, dans son conflit contre le Saint-Empire germanique. Les Normands, pas bêtes, en profitent. Et s'autonomise de l'Église.
C'est aussi un peu leur territoire.
Ouais.
C'est aussi un peu la position de leur territoire.
Bien sûr, tout à fait.
Ils sont
à la croisée des chemins.
Frontière.
Totalement.
Frontière.
Totalement. Et effectivement, ils font vivre cette pluralité, puisque vous allez voir dans le pouvoir temporel sur l'île des responsables qui sont issus du monde arabo-musulman, qui sont musulmans. Donc, ils acceptent vraiment cette pluralité, y compris jusque dans le pouvoir. Et c'est d'ailleurs un moment très riche culturellement, avec un vrai mélange des cultures, avec une architecture, une peinture qui s'entremêlent d'influences arabo-musulmanes et d'influences grecques et d'influences occidentales chrétiennes. Ah, oui, tout à fait. À partir du 14e siècle, de par la volonté des monarques français et avec l'installation, au début, pour des raisons de sécurité, de la papauté en Avignon, eh bien, se développe ce qu'on appelle le gallicanisme, doctrine majeure qui affirme l'autonomie de l'Église catholique de France par rapport à Rome, par rapport au Saint-Siège. Donc vous le savez, Au début, le pape se déplace à Avignon, et puis finalement, les rois de France veulent maintenir le pape à Avignon. Il y a un conflit, à un moment donné, on arrive même jusqu'à trois papes en même temps. Finalement, c'est Rome qui maintient son pouvoir, et seul le pape de Rome reste légitime. Néanmoins, pendant un temps, il y a eu deux papes, un à Rome, un à Avignon, parce que, en fait, le roi de France avait tout intérêt à garder cette autorité sur le pouvoir de l'Église. C'était parfait. Il est de droit divin, et en plus, il contrôle le droit divin. C'est formidable. Vous avez en 1438 un événement important, c'est la pragmatique sanction de Bourges. En fait, c'est une sorte de décret royal qui marque une étape essentielle en affirmant les libertés de l'Église gallicane, c'est-à-dire en fait la volonté du roi et du clergé de France de limiter totalement l'ingérence du pape et de renforcer l'autorité royale sur l'Église. Donc même s'il n'a plus son pape, il arrive à imposer son pouvoir sur l'organisation de l'Église au sein du royaume de France. Et ça c'est définitivement acté avec un traité qui est beaucoup plus connu, c'est le Concordat de Bologne de 1516, qui vraiment acte et de ce renforcement de ce pouvoir royal, puisque ça donne directement ce concordat au roi de France, officiellement, un contrôle sur l'Église du royaume de France. Bon, néanmoins, même s'il contrôle son Église, le pape, il n'est pas en France, et le pape, il ne le contrôle pas. Donc il reste quand même très lié, il est indissociablement lié, la monarchie est indissociable de l'Église catholique, avec un pape qui reste, qui n'est pas à la main du monarque. Et puis qu'est-ce qui se passe en 1517 ?
Luther.
Et là c'est majeur. Luther lance la réforme, il dénonce bien sûr les abus de l'Église, il affirme la primauté de la Bible, qu'il diffuse très largement en langue vernaculaire, en allemand, et puis ensuite dans toutes les langues des différents royaumes d'Europe, grâce notamment à l'imprimerie qui a été inventée peu de temps avant. Bon, il donne naissance au protestantisme, ça se répand assez rapidement, surtout en Europe du Nord, puis en France quand même, beaucoup plus vite qu'on ne le pense, hein. Il y a une très grosse progression en France. La monarchie française, l'Église catholique qui y est liée, évidemment, très majoritairement la monarchie, puis l'Église qui y est liée évidemment totalement, s'oppose très nettement à la réforme protestante. Pourquoi ? Ben d'abord parce qu'elle est perçue comme une révolte contre les dogmes de Rome, mais aussi parce qu'elle est perçue comme une autonomisation individuelle qui est insupportable, y compris pour les autorités monarchiques. Parce que l'accès à la lecture de la Bible, c'est aussi l'alphabétisation, c'est le début du commencement de la constitution de sa propre idée, de ses propres idées individuelles, contre ce que raconte le pouvoir royal. Et ça, c'est inacceptable pour le pouvoir royal. Donc, ce sont les guerres de religion qui débutent, les persécutions, les massacres, la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Bon. Finalement, par la loi salique, c'est quand même un chef protestant qui devient roi. Ça pose problème quand même à certains. Néanmoins, il s'était converti pour assurer et asseoir son pouvoir dans un pays où finalement les protestants restaient minoritaires. La Saint-Barthélemy avait quand même marqué un sacré coup, puisque bon nombre de nobles et de chefs protestants avaient été exécutés à Paris, mais aussi en province, puisque comme vous le savez, ça s'est déployé partout en province les jours qu'on suivit, jusqu'à causer à peu près pas loin de 30 000 morts. Donc finalement, après avoir combattu la Ligue catholique, Henri IV se convertit et signe, vous le savez, l'édit de Nantes en 1598. Et il le cachette comment, cet édit de Nantes ? Quel est le cachet de l'édit de Nantes ? Il se fait à la cire verte. Qu'est-ce que signifie la cire verte ? C'était les édits royaux les plus importants, qu'on ne pouvait pas révoquer, soi-disant. Ça n'empêchera pas son petit-fils qui se prenait pour le soleil de le révoquer. Ouais. Ah, contre, alors même que c'était censé être un édit irrévocable. Donc cet édit qui accordait quelques droits, pas tous les droits, à l'inverse de ce qu'on croit souvent, qui accordait des droits équivalents aux protestants, mais limités aux places fortes protestants, dans le royaume en général, le catholicisme restait religion d'État, du roi, Mais il acceptait, évidemment, il était lui-même issu de ce courant, que dans les places fortes, les protestants aient à peu près les mêmes droits. C'est pour ça qu'à Nîmes ou ailleurs, on pouvait être au présidial et être même premier consul d'une commune, d'une ville. C'était pas possible dans le reste du royaume. C'était possible que dans les places fortes, à Nîmes, à La Rochelle, à Montpellier, à Montauban, etc. Ok. Donc finalement, révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV. Donc, nouvelle persécution, nouvelle révolte, la révolte des protestants paysans dans les Cévennes, guerre des Camisards. Et puis, fin de la guerre des Camisards. Et puis finalement, il y a des foyers de contestation à peu près tous les 10 ans, ici ou là dans le royaume, avec des persécutions chaque fois à ce moment-là, et quoi qu'il en soit, des discriminations qui sont légalisées. C'est-à-dire que les protestants, comme d'ailleurs les juifs sur d'autres aspects, comme d'ailleurs les mahométans, les musulmans à l'époque sur d'autres aspects, étaient évidemment discriminés, avaient moins de droits que les sujets qui étaient catholiques. Et ça dure jusqu'à 1787, pour les protestants en tout cas, avec l'édit de Versailles, qui va commencer à octroyer des droits à peu près équivalents aux protestants. Et puis, enfin...
Les protestants 1787, c'est...
Non, aussi un peu les juifs, mais surtout les protestants.
L'édit de tolérance.
Ouais. Et là, on a ensuite la Révolution française, bon, qui suit à une crise économique sociale majeure, mais aussi au siècle des Lumières, qui a largement développé des idées d'individualisation, d'autonomie individuelle, de liberté. Tout cela arrive à la Révolution française. Avec la Révolution française, vous avez donc pour la première fois les idées de ce que va devenir la laïcité qui s'acte en droit. Mais avant cela, il faut revenir un peu avant. Au XVIIe siècle, face aux guerres de religion que j'ai évoquées, parce qu'il y en a eu en Europe, en France, mais aussi ailleurs en Europe, vous avez des penseurs qui commencent à dire « bon, il va falloir trouver un système » qui permettent dans une société qui est devenue plurielle d'avancer quand même ensemble. Donc vous avez qui Pierre Bayle, qui est très connu, qui est un philosophe protestant d'Ariège, qui commence à travailler sur cette notion de liberté individuelle et de séparation. Vous avez bien sûr ensuite John Locke, britannique, avec son traité sur la tolérance, mais qui néanmoins ne tolère pas les athées. John Locke ne va pas jusqu'à tolérer les athées, faut pas non plus exagérer. Ce que tolère Pierre Bayle et ce que tolère Spinoza. Spinoza a une influence majeure à ce moment-là. Blaise Spinoza, il devient rationaliste. Spinoza, il affirme que la paix civile, elle exige justement de séparer la foi et la raison. Locke se limite à défendre la pluralité religieuse sans les athées. Et il veut quand même aussi limiter le pouvoir de l'État au domaine civil et donc en ne l'autorisant pas à empiéter sur le domaine spirituel. Pierre Bayle, outre ce que je vous ai dit, évidemment, c'est celui qui est en premier, j'exagère, mais affirme de manière très... audible à ce moment-là que la conscience est un guide intérieur inviolable et que même l'athée peut être un bon sujet, un bon citoyen, on dirait aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment une idée qui est décisive pour la tolérance et le respect ensuite à l'ère moderne. Et outre-Atlantique, ça on l'oublie souvent, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un théologien protestant qu'on oublie souvent et qui est pourtant majeur. Voyez-vous qui c'est? C'est Roger Williams. Roger Williams, qui est fondateur de la ville de Providence, dans l'État qui est aujourd'hui le Rhode Island. Et qu'est-ce qu'il fait, Roger Williams? En 1637, donc c'est extrêmement vieux, eh bien, il établit le premier, le principe d'une séparation effective entre tous les cultes, et sont déjà considérés à l'époque les mahométans, donc les musulmans, les juifs, les protestants dans leur diversité, qui n'étaient pas appelés protestants à l'époque, les catholiques. Et les athées. Donc, il affirme la séparation effective entre toutes les religions et le pouvoir civil. Et il met en œuvre, en application concrète, une administration qui se plie à cela. C'est-à-dire qui n'a aucune autorité sur le spirituel et laisse le spirituel, dans sa grande diversité, avoir autorité, mais uniquement sur le spirituel. Il délie les deux choses et il assure cette liberté de conscience pour toutes et tous. C'est une grande première, c'est 1637. Ça préfigure la séparation plus radicale qui suivra, et notamment le fameux mur de séparation de Thomas Jefferson avec le premier amendement de 1791 qui interdit aux États-Unis d'Amérique toute religion d'État. Et donc cette séparation, 1791, date d'avant, sans parler de celle de 1637 dans le Rhode Island, la séparation américaine date d'avant la première séparation française. On n'est pas les précurseurs en matière. Juste avant d'en revenir à la Révolution, au XVIIIe siècle, on en a parlé un peu, les Lumières vont évidemment renforcer nettement la pensée de Spinoza, de Bayle, de Locke, etc. Et de, oui, avec Voltaire qui dénonce, vous le savez, le fanatisme religieux, notamment avec l'affaire Calas à Toulouse, bien sûr, avec Rousseau qui proclame la souveraineté du peuple et l'égalité des citoyens, des sujets, avec Condorcet qui est très très en avance sur son temps à tout point de vue, hein, qui défend l'égalité des droits, qui s'oppose déjà à l'esclavage, qui soutient déjà l'égalité femmes-hommes. Enfin, vraiment, Condorcet, sur le coup, c'est sans doute celui qui était le plus en avance sur son temps. Il soutient aussi les minorités, les protestants, les juifs, enfin, la totale. Et puis aussi avec Diderot, qui critique l'aliénation religieuse dans, d'ailleurs, le roman La Religieuse. Donc, nous avons la Révolution française, qui concrétise en droit certains de ses acquis de la pensée. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, avec les articles 1, 4 et 10 sur la liberté de chacun jusqu'à celle d'autrui, l'égalité en droit, et sur donc cet article 10, fondement notamment de ce que va devenir la laïcité, avec donc la liberté d'exprimer des opinions, même religieuses, dit le texte, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et puis vous avez quand même des contradictions dans cette révolution. Quelles sont-elles ?
Le culte de l'être suprême.
Alors, il y a le culte de l'être suprême, en effet. Il y a la tutelle, la mise sous tutelle de l'État, de l'Église par l'État, avec la constitution civile du clergé en 1790, qui provoque une fracture religieuse majeure avec l'Église, et qui restera jusque justement au débat de 1905. Et puis finalement, en 1795, qu'est-ce qui se passe ? Grâce à un protestant, Ardéchois, on met un terme à cette tutelle finalement. Pourquoi ? C'est la première séparation. Le décret de François-Antoine de Boissy d'Anglas, février 1795, on sépare les cultes de l'État. Et on ne rémunère plus les cultes. Est-ce qu'elle dure cette séparation ? Ben, du tout, elle ne dure pas, puisque qu'est-ce qui se passe ? Vous avez Napoléon Bonaparte qui en 1801, puis 1802, signe le Concordat, puis les articles organiques, le Concordat avec l'Église catholique, les articles organiques pour gérer le culte catholique, mais aussi pour gérer les relations avec les cultes protestants, deux seulement à l'époque, et le culte israélite. À ce moment-là, il organise le culte israélite d'ailleurs, mais en réalité totalement sous tutelle de l'État. Napoléon Bonaparte fait ça pour une bonne raison, c'est toujours pareil, hein, comme les rois avant ou quoi, c'est que pour asseoir son pouvoir, mieux vaut contrôler la religion. Néanmoins, il est malin, il rappelle qu'il n'y a plus une religion d'État. Il rappelle la liberté religieuse, donc il garde l'acquis révolutionnaire de la liberté religieuse. Toutes les religions ont droit dans le royaume, tout le monde peut croire comme il entend. Il les contrôle, mais tout le monde peut croire comme il entend, ou ne pas croire. Et puis après, vous avez des avancées, des reculs successifs durant ce 19e siècle. Une petite avancée avec Guizot qui va instaurer l'obligation d'avoir des écoles un peu partout sur le territoire, néanmoins sans imposer à ce que ces écoles soient gérées par le pouvoir public. Hein. Ce sont les églises catholiques pour l'essentiel qui gèrent ces écoles. Néanmoins, ça va permettre quand même de cultiver la population et de l'alphabétiser. Et puis vous avez 1850, qu'est-ce qui se passe en 1850 ? Vous avez la loi Falloux avec une opposition virulente, Victor Hugo, avec cette fameuse phrase « L'État chez lui, l'Église chez elle ». Il emploie d'ailleurs pour la première fois le mot « laïque ». On n'a pas encore le mot « laïcité », mais le mot « laïque », l'adjectif, non pas entendu au sens « laïque » L-A-I-C de celui qui n'est pas ordonné ou qui n'est pas religieux au sein de l'organisation religieuse, mais vraiment au sens de celui qui est partisan de la séparation des églises, des cultes et de l'État. Et d'ailleurs, cet adjectif laïque est invariable. L-A-I-Q-U-E. L'État laïque, c'est L-A-I-Q-U-E. Ce qui permet d'éviter la confusion avec le terme ancien, le nom laïque. Et puis après, vous avez Napoléon III, qui aussi, entre conservatisme moral et liberté acquise à la Révolution... Vous avez l'échec avec la défaite de Sedan, un armistice, une signature de paix qui est jugée inacceptable par certains, avec le retour d'un ordre moral conservateur plutôt proche du monarchisme, avec une volonté d'ailleurs de restauration qui est explicitée, avec la volonté d'un retour d'un lien avec l'Église catholique, refus évidemment de cette paix pour d'autres raisons, pas que celle-là, loin de là. De certaines communes, ce sont les fameuses communes, notamment la commune de Paris, qui d'ailleurs instaure, pendant les quelques mois de son existence, la séparation des églises et de l'État. Elles sont balayées, pas de séparation donc, puis finalement, quelques années après, les républicains l'emportent, donc viennent au pouvoir, et donc vont mettre en œuvre ce qu'on appelle la laïcisation de tout un tas de champs, qui auparavant étaient donc délégués, étaient gérés par le culte catholique et qui vont donc devenir service public. 1880, qu'est-ce qui se passe? Notamment la loi sur les cimetières, avec donc enfin, dans toutes les communes, des cimetières publics. C'est-à-dire, ça a un sens important, ça veut dire qu'à partir de là, tout le monde peut être enterré dans le cimetière. Qu'est-ce qui se passait avant? Soit vous aviez... un cimetière privé, quand vous étiez d'une autre religion minoritaire, comme à Nîmes, par exemple, et vous pouviez enterrer vos morts dans les cimetières privés, soit il n'y avait pas de forte communauté locale de votre minorité, et vous étiez enterré dans les fosses communes. Et oui, puisque vous n'aviez pas le droit d'être dans terre consacrée. Ça, on l'oublie, mais c'est assez récent. Jusqu'en 1881, voilà, si vous n'étiez pas catholique... Donc, à partir de là, c'est terminé. Les cimetières sont publics et collectifs pour toutes et tous. Ensuite, vous avez bien sûr les lois Ferry, Goblet, largement rédigées par Ferdinand Buisson, 1881, 1882 et 1886, avec donc l'instruction scolaire qui devient obligatoire et les écoles publiques qui maintenant se répandent partout sur le territoire, avec, à partir de 1886 et la loi Goblet, un corps enseignant qui n'est plus religieux. Ce ne sont plus les congrégations qui délivrent les enseignements, ce sont ce qu'on appelait les hussards noirs, si on reprend la formule de Charles Péguy, ou les hussards de noirs, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de femmes institutrices qu'on oublie, donc les hussards et les hussards de noirs de la République, qui effectivement donc, étaient là pour délivrer un enseignement objectif, qui n'était pas teinté de religion. Néanmoins, on n'a pas du tout fait ça comme on l'entend parfois. Ça ne s'est pas fait de manière virulente et contre l'Église. Pourquoi? Déjà, les crucifix ont été enlevés des classes très très progressivement. Ça a mis des dizaines d'années parfois. Mais aussi, on laissait un jour entier de la semaine libre pour que les parents puissent emmener leurs enfants au catéchisme. Ça a été le mercredi, ensuite le jeudi. Donc ça ne s'est pas fait aussi de manière aussi violente qu'on l'entend parfois. Ça a voulu se faire dans une forme de consensus. Mais après cela, il y a l'arrivée au pouvoir d'un monsieur qui s'appelle le Petit Père Combes, Émile Combes. Pourquoi on l'appelait le Petit Père Combes? Parce que c'était un ancien séminariste, mais qui était devenu profondément anticlérical et anti-religieux, athée très fort. Il avait connu l'Église et puis ça ne lui avait pas plu. Il est devenu très opposé à l'Église et à la religion en général. Quand il arrive président du Conseil, il outrepasse la loi Et il va expulser de nombreuses congrégations catholiques, même celles autorisées par le Conseil d'État et par la loi. Donc ça va créer une fracture avec l'Église, d'autant plus qu'il y a quelques petites affaires diplomatiques, une visite d'un président, pas du Conseil de la République, avec quand même moins de pouvoir, à Rome, sans passer par le pape, jugé inacceptable, évidemment, par la papauté. Comment ça? La France fut unie de l'Église qui ne vient pas nous rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Rupture du Concordat en 1904. Donc en fait, en 1904, le Concordat n'est déjà plus effectif. Rupture. L'Église catholique refuse de se soumettre. Le clergé, le Saint-Siège ordonne à son clergé de ne plus se soumettre à l'État français. Ça fonctionne toujours pour les autres cultes, mais c'est donc, ça devient très compliqué pour l'Église catholique. Donc ça accélère la nécessité de la séparation, finalement. Ça donne du grain à moudre à ceux qui défendaient depuis très longtemps la séparation, en disant, bah, de toute façon, il va bien falloir quelque chose, là. Émile Combes, lui, néanmoins, n'est pas partisan de la séparation. Émile Combes, lui, en fait, il est laïque dans une forme qui est non-séparatiste. Parce qu'on y reviendra, il y a différentes formes de laïcité, en réalité, y compris dans le monde. La laïcité turque de Mustafa Kemal est une laïcité combiste, en fait. Donc, il est laïque, mais il ne veut pas la séparation. Ce qu'il veut, en fait, c'est une sorte de nouveau concordat qui donne encore plus de pouvoir à l'État. Où vraiment, il contrôle totalement les cultes. Il garantit la neutralité de l'État, la liberté de conscience, mais il veut s'assurer que le pouvoir administratif et politique contrôle tous les cultes. Donc, il veut une sorte de concordat élargi. C'est pas du tout la conception d'Aristide Briand. Aristide Briand, lui, fait partie des libéraux et de ceux qui considèrent comme devant aboutir enfin, comme le voulaient les Lumières, certains révolutionnaires, pas tous, on l'a vu, mais certains révolutionnaires, à la séparation enfin effective, avec donc cette acceptation de la liberté de culte pleine et entière, et donc aussi à l'indépendance de l'organisation des cultes. Ils gèrent leur culte comme ils l'entendent. Dans des associations quand même à définir, il y a eu un énorme débat sur l'article 4 de la loi de 1905 sur comment définir l'association cultuelle, et l'État qui est tout à fait donc séparé des religions, qui n'a plus de rapport avec les religions et qui ne les subventionne plus et qui ne les salarie plus. Lui, il est finalement dans cette logique brillante de la laïcité, de l'histoire même de ce que j'ai tracé un grand trait, qui est de penser la laïcité pour organiser une société moderne qui aspire aux libertés individuelles, mais aussi qui aspire à la fin de toute inégalité, de toute discrimination du point de vue religieux dans une société plurielle. Donc il ne veut plus favoriser quiconque ou défavoriser quiconque. Combes, en réalité, il veut favoriser les athées, l'athéisme. Il est dans une logique de défavoriser les églises. Briand, il dit non, chacun fait ce qu'il veut. On est dans une logique. On a été dans ce pays, on a connu dans notre histoire des conflits terribles entre sujets puis citoyens du fait de leurs croyances, de leurs pensées. Les protestants, les libres penseurs ont été persécutés, les juifs, etc. Les mahométans, les musulmans. Donc maintenant, il faut sortir de cela. Il faut qu'on accepte d'avoir un État qui est tout à fait séparé, indépendant, neutre et qui traite tout le monde exactement de la même manière. Et c'est cela qui l'emporte, effectivement. Il arrive à convaincre, y compris une partie du clergé français, et y compris une bonne partie de parlementaires de droite, en leur garantissant cette liberté des organisations religieuses. Et donc, on arrive à l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, dans un conflit pourtant qui était fort, le conflit des deux France, entre la France qui se disait fille aînée de l'Église, et la France qui se disait fille des Lumières. Il parvient pourtant à imposer ce consensus sur cet aspect libéral. Mais l'Église catholique refuse la loi. On l'oublie aussi souvent, mais l'Église catholique refuse d'appliquer la loi, puisque le pape, à l'époque, s'opposait à la loi. On dit souvent, vous savez... alors maintenant, beaucoup disent... Non, mais de toute façon, la laïcité, c'est issu du christianisme, c'est la parole de Jésus, donner à César ce qu'est à César, à Dieu ce qu'est à Dieu. Ça, ça arrange bien certains de dire ça aujourd'hui, mais ça n'a jamais été interprété. Ces paroles de Jésus n'ont jamais été interprétées comme telles jusqu'à récemment. Elle a été un peu interprétée comme telle par Luther et par les protestants, mais absolument pas par l'Église catholique. C'est-à-dire que là encore, cette parole était interprétée comme une distinction des pouvoirs, mais avec évidemment toujours la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Elle n'a jamais été interprétée comme une séparation des pouvoirs. Donc à l'époque, le pape considère que cette loi est inique et qu'elle casse un lien qui ne peut pas être rompu. Et donc l'Église, elle l'ordonne à son clergé de ne pas créer d'associations cultuelles, les associations de loi 1905, créées par son article 4, et donc de refuser d'être dans l'illégalité. C'est un problème quand même. Les associations cultuelles, à ce moment-là, devaient recevoir quoi ? Elles devaient recevoir à nouveau tous les lieux de culte qui n'avaient pas été saisis sous la Révolution et qui s'étaient constitués sous l'empire du Concordat et des articles organiques. Tous ces lieux de culte qui s'étaient construits au XIXe siècle, l'État les rendait avec la loi de 1905. Elle les rend aux associations culturelles. Puisque l'État est séparé des religions, il n'a plus à gérer de lieux de culte. Et l'Église catholique refuse. Donc l'État reste chef, reste propriétaire, et les communes restent propriétaires des églises et des cathédrales. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les églises et cathédrales sont très largement... Alors, il y en avait quelques-unes qui, de toute façon, seraient restées propriétés parce que saisies sous la Révolution, mais beaucoup aujourd'hui, qui ne devraient plus appartenir aux communes, appartiennent aux communes et donc sont à la charge pour ce qui concerne les dépenses essentielles, c'est-à-dire lorsqu'il y a un risque pour un citoyen, c'est une pierre qui tombe ou quoi, toutes ces dépenses nécessaires restent à la charge de la collectivité publique, ce qui n'est pas le cas des autres cultes. Les autres lieux de culte sont à la charge des fidèles. Ça crée une énorme inégalité en réalité. Et ça rompt le principe de laïcité. Alors du coup, le juge, pour essayer de rétablir cette égalité, a accepté, et maintenant c'est dans la loi, que les collectivités locales puissent aider les autres cultes dans leurs dépenses nécessaires. Mais c'est une possibilité qui est offerte. Donc une mairie peut ne pas du tout aider un temple, par exemple, à se refaire. Mais elle peut, pour essayer de rétablir l'égalité. Pour l'Église catholique, dès lors que ça appartient à la commune, c'est une obligation. On doit, nous, collectifs, payer. Donc, évidemment, l'Église catholique, là, finalement, a un grand avantage. Donc, ça, c'était le premier problème de ne pas appliquer la loi. Le deuxième problème, c'est qui c'est qui exerçait le culte, puisque, normalement, c'est l'association cultuelle qui exerce le culte. Légalement, ça veut dire que le culte catholique était dans l'illégalité. Les prêtres, les curés, les moines géraient leur activité dans la totale illégalité. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Le législateur légifère à nouveau en 1907-1908 et il va autoriser les églises, le culte catholique, à être exercé par de simples associations, loi 1901. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous avez tout un tas d'associations religieuses, surtout musulmanes ou bouddhistes, ou même quelques églises protestantes évangéliques, qui sont sous le statut loi 1901. Parce que ça a été autorisé par la loi pour permettre à l'époque au culte catholique de s'exercer, puisqu'il refusait la loi de 1905. Le problème, c'est que ces lois, c'est pas la loi 1901 pour gérer du culte, c'est quand même pas top, parce que ça crée de la confusion. La loi de 1901 peut recevoir des subventions, mais on peut pas subventionner les activités cultuelles. Donc encore aujourd'hui, quand vous avez des associations de loi 1901 qui font notamment du culte, c'est compliqué. Elles peuvent normalement recevoir des subventions pour leur activité sociale, culturelle, mais pas cultuelle. Donc ça crée de la confusion des gens. Et ça peut même participer à un certain clientélisme. C'est pour ça que l'Observatoire avait demandé de revenir à l'esprit de la loi de 1905, c'est-à-dire d'étendre les contrôles sur les lois 1905 aux lois 1901 qui font du culte, sans étendre les avantages fiscaux. Ce qui conduit forcément à avoir tout intérêt à se mettre en loi 1905. C'est ce qu'a repris la loi de 2021, sauf que la loi de 2021 a ajouté un article complètement absurde. Malheureusement, c'est la politique, pour faire preuve de fermeté. Le ministre de l'Intérieur voulait faire preuve de fermeté, donc il a ajouté un article qui a complètement cassé cette dynamique. Cet article, c'est d'imposer aux associations loi 1905 une reconnaissance administrative et de qualité culturelle par le préfet lui-même tous les 5 ans. Vous imaginez bien que les petites associations, elles n'ont pas envie tous les 5 ans de prouver leur qualité culturelle par la documentation administrative afférente, avec le risque en plus que comme le préfet change tous les 2-3 ans, finalement, il change d'avis. Donc tous ceux qui s'étaient lancés dans ce dispositif, pour la plupart, ont abandonné à cause de cet article qui ne sert à rien, si ce n'est à avoir un affichage politique de fermeté, mais qui est en réalité totalement contre-productif. Et qui pose question sur le principe même de respect de la loi de 1905, qui pose le principe de séparation. Ce n'est pas au préfet de reconnaître une qualité cultuelle, du fait de la séparation. Normalement, la qualité cultuelle, elle était de 1905 jusqu'à 2021 automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et parce que ça, c'est défini juridiquement par le Conseil d'État, où il y a un exercice collectif de pratiques rituelles autour d'une croyance, c'est une activité cultuelle, point barre. Et donc, on n'a pas lieu d'aller plus examiner que cela. Elle est automatique quand l'association dit « je suis une association cultuelle », si effectivement on constate qu'il y a un regroupement collectif autour de rituels, c'est bon. Ok. Il n'y a pas plus à voir. Et là, on a finalement imposé une caractérisation plus administrative et qui pose question, parce que ce n'est pas au préfet d'aller fouiller dans l'organisation interne du culte, du fait même de la séparation. Donc c'est un article qui pose question, auquel l'Observatoire s'était opposé, et puis hop, il a été supprimé à ce moment-là. C'était vraiment juste au même moment. Parce qu'il y avait une question problématique en termes de respect du principe de séparation.